Les élèves de l'école de Sainte-Croix vous présentent à la découverte des acteurs du parc naturel régional du Vercors. Cap 2038, le parc du Vercors Quézaco.
Quézaco. On a vu le garde forestier. On a vu l'éco-garde des vautours. On a allé voir les bergeries.
Pisciculture, Quézaco. Chèvrerie, Quézaco. Refuge d'Archiane, Quézaco. Des interviews, un documentaire, une émission pour Erdiwa, Quézaco.
Les fils des touristes, de Dix.
Cap 2038, Quézaco.
Quézaco.
On est allé à l'école de Saint-Agnan en Vercors. C'est là-bas que nous avons interviewé Jacques, le garde forestier. Il nous a expliqué comment compter les animaux en forêt.
La combien d'animaux dans la forêt?
Il marque les arbres à couper.
Il a une voiture verte avec un logo dessus.
C'est quoi un logo?
C'est un dessin avec une fleur, un oiseau, et puis voilà. Pendant cette journée, nous avons aussi rencontré les élèves de Saint-Agnan. Le matin, nous avons visité la grotte de la Luire. On a fabriqué des bougies pour pas être dans le noir. C'était une belle journée, même si on a eu un petit peu froid.
Cap 2038, Quézaco. Le port du Vercors par l'école de Sainte-Croix.
Pour Erdiwa, pour la radio du Diwa.
Bonjour, nous sommes à Saint-Agnan en présence de Jacques Lullier, garde ONF. Nous venons vous interviewer sur votre métier pour comprendre les relations que vous avez avec le parc et les autres acteurs du parc. Ceci nous aidera à trouver des idées à proposer pour la nouvelle charte. Cette intervention nous servira aussi à faire un reportage qui sera diffusé sur Radio Diwa. Quel métier faites-vous?
Oui, alors d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, donc tu m'as présenté, c'est bien. Voilà, je travaille à l'Office national des forêts. Oui, donc c'est un établissement public de l'État, donc qui est chargé de la gestion des forêts publiques, c'est-à-dire les forêts communales qui appartiennent aux communes et les forêts domaniales qui appartiennent à l'État. Voilà.
Votre métier est-il difficile, emploi du temps chargé?
En ce moment, oui, il est difficile parce qu'on vit un contexte là qui n'est pas facile au niveau national, au niveau de l'Office national des forêts. Il y a des réformes en cours là qui sont assez drastiques. Et c'est vrai que c'est pas facile en ce moment, oui. Sinon, y a des périodes qui sont plus ou moins chargées. Ça dépend des saisons, ici en montagne. Donc on a des périodes donc, où les intempéries, notamment la neige, font que les interventions en forêt, sur le terrain, sont limitées. Par contre, printemps, été, automne, donc là, par contre, on est sur le terrain beaucoup plus souvent.
Vous avez déjà un peu fait, mais décrire votre métier.
Alors, le métier de forestier à l'Office national des forêts, donc c'est la gestion totale des forêts publiques, c'est-à-dire totale, on s'occupe de tout ce qu'on y fait, c'est-à-dire on peut aller des exploitations, c'est-à-dire des coupes d'arbres que tout le monde connaît. Donc on a besoin de bois, donc on favorise donc l'exploitation. Il y a des travaux d'entretien qui se font dans ces forêts, de façon à ce que les petits arbres poussent et grandissent jusqu'à devenir de grands arbres. Donc ça demande beaucoup de travaux pendant une très longue période. On fait également des travaux sur les infrastructures routières, donc on a besoin d'aller dans les forêts avec des véhicules, notamment des camions, pour sortir le bois de la forêt. Donc on crée des pistes, on les entretient, on crée aussi pour les loisirs de l'accueil. Donc on va créer des sentiers pédestres, des sentiers pour les cavaliers. Parfois on a aussi des pistes de ski de fond à gérer. On a aussi dans le domaine de l'accueil du public, la création, on est parfois amené à créer donc des aires de pique-nique, des parcours de santé, de découverte. On s'occupe aussi de la protection de la forêt. Et la protection, donc, ça entend la protection de toutes les espèces animales, végétales, la protection des sols aussi, notamment en montagne, où on peut avoir des problèmes d'érosion, des problèmes d'avalanche. Et donc on est aussi chargé de veiller à ce que ça se passe le mieux possible. Voilà, on s'occupe de la chasse, de la pêche. On est aussi assermenté, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de dresser un procès-verbal ou mettre une amende à quelqu'un qui respecterait pas la réglementation. Donc on est chargé de police aussi. Voilà, entre autres, il y a d'autres missions pour lesquelles on est convié. Voilà.
Vous savez beaucoup de choses. Oui. Avez-vous toujours voulu faire ce métier ici dans le Vercors ?
Alors j'ai toujours, c'était une passion dès le début, dès votre âge à peu près. Et c'est un peu grâce à un instituteur, qui m'a donné un peu la fibre de la forêt, enfin du milieu naturel en général, et de la forêt. Et donc j'ai voulu à tout prix devenir forestier. Ici sur le Vercors, ça fait depuis 1998 que je suis en poste à Saint-Agnan. Auparavant, j'étais en Moselle, donc en Lorraine, pendant 13 ans.
Votre métier serait-il différent hors du parc ? Y a-t-il des avantages, des inconvénients à le faire dans le parc ? Le parc est-il un peu plus pour votre métier ?
Le parc amène certaines choses, oui. Et notamment, pour ce qui me concerne un peu plus personnellement, parce que donc, j'ai en charge des forêts qui sont situées sur les hauts plateaux, dans le parc, il y a une réserve naturelle, la réserve naturelle des hauts plateaux, la plus grande réserve naturelle de France. Et j'en ai un peu la gestion, notamment de certaines forêts qui sont situées là-haut. Et donc ça a une incidence, sur la gestion forestière que l'on a. Il y a des mesures à prendre un peu plus pointues, on va dire, notamment en matière de protection des espèces animales, végétales, des milieux. Après, à l'échelle du parc, donc on a aussi une façon de travailler qui peut être un peu plus, on va faire peut-être un peu plus attention aussi par rapport à certaines exploitations. Donc on va éviter certaines pratiques que l'on ferait peut-être en plaine un peu plus facilement, notamment en matière de coupe, en matière de gestion sylvicole, par exemple, la futaie régulière et la futaie irrégulière. Bon, c'est un peu des thèmes un peu techniques, mais c'est une façon de gérer la forêt qui ici en montagne et notamment dans le parc, fait qu'on a une gestion un peu particulière. Oui.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, je l'aime encore, oui. Je l'aime encore malgré ce que je t'ai dit tout à l'heure là, par rapport à la situation de l'ONF actuellement. Oui, la plupart, une grosse majorité de forestiers font ce métier par passion. C'est une passion, oui.
Aimeriez-vous votre métier si vous le faisiez hors du parc ?
Oui, je l'aimerais aussi, oui.
Avez-vous des relations avec d'autres acteurs du parc ?
Oui, bien sûr, beaucoup. Beaucoup d'autres acteurs. Oui, y a les élus, déjà. On gère des forêts communales qui appartiennent donc à des communes. Donc on a affaire aux élus de ces communes. On a aussi, en tant que forestier, donc On s'occupe donc bien sûr des travaux des coupes, donc on a affaire à des personnes qui vont intervenir, par exemple les ouvriers forestiers, les bûcherons, les débardeurs. On a tous ceux qui viennent découvrir aussi la forêt, les randonneurs, les skieurs, les cavaliers. Bon, après j'en oublie, hein, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a les techniciens du parc aussi, de la réserve naturelle, les gardes verts. Qui travaillent aussi, on travaille avec eux conjointement, oui, pour certaines missions.
Et est-ce que vous avez des relations avec des gens qui sont un peu difficiles, qui...
Des gens difficiles, ouais. C'est-à-dire
bah, des gens avec qui vous n'entendez pas trop bien dans le parc.
oui, on a des relations avec tout le monde, oui. Après, on essaye qu'elles se fassent le mieux possible, quoi, oui. Dans le respect, si possible, oui. Bon, parfois, ça peut être un peu délicat, oui. Oui. oui, mais bon, c'est occasionnel, quoi, oui.
D'accord. Pour vous, comment serait le parc de vos rêves?
Une vaste question. Le parc de mes rêves. Un espace où l'homme vivrait en harmonie avec le milieu, oui. Le plus en harmonie possible avec le milieu naturel, avec les espaces naturels, oui. Sans trop d'empreintes trop marquées de l'homme, oui. Mais l'homme doit vivre, hein. Il vit dans le parc et il faut que le parc fasse en sorte que les êtres vivants qui sont sur ce parc vivent le mieux possible, oui.
D'accord.
Oui, pas facile.
Cap 2038, Kézako, le parc du Vercors par l'école de Sainte-Croix.
Donc, tu passes la parole à
Mélissa.
D'accord.
Alors, à quoi ça sert un garde forestier?
Quoi ça sert? Alors, garde forestier, c'est le terme qu'on employait il y a quelques années, là, maintenant. Donc, il y avait le mot garde dans garde forestier, garde qui garde la forêt. Donc, on est un peu des gendarmes. On était, on l'est encore un peu, des gendarmes de la forêt, on va dire. Donc, on essaye, enfin, notre métier était essentiellement chargé, enfin, la fonction qu'on avait, c'était de surveiller la forêt, de faire en sorte qu'il ne se passe rien de problématique, que personne ne nuise à la forêt, ou bien bien-être de la forêt, des espèces, des arbres. Actuellement, on a encore cette fonction, hein, de police de la forêt, de la nature, mais également, donc, on a aussi le rôle que la forêt doit nous donne aussi de production. Donc la forêt produit un tas de choses, et principalement du bois par l'intermédiaire des arbres. Donc on va exploiter la forêt. Donc on est chargé donc de marquer les arbres qui vont être abattus, de suivre l'exploitation par les bûcherons, par les débardeurs, jusqu'à ce que l'arbre qui sera coupé sera amené en bord de route. Et donc ensuite il va être acheminé vers une scierie. Si le bois est destiné à être à donner de la charpente, par exemple. Voilà, donc ça, c'est une mission qui est quand même très importante, de plus en plus maintenant. On a également donc les travaux d'entretien. Donc dans les jeunes peuplements où les arbres sont petits, il faut les aider à pousser. Et donc on va choisir certains arbres parce qu'ils sont, plus élancés, ils ont l'air plus fort, donc ils réussiront à monter, à grandir et à supporter la concurrence des autres. Donc là, c'est des interventions qui sont faites avec les ouvriers forestiers. Voilà, après, je l'ai dit tout à l'heure, hein, toutes les fonctions que l'on avait et que l'on a encore, donc qui sont assez vastes. Hein. Après, il peut y avoir des différences entre la montagne, le bord de l'océan, la forêt de plaine, la forêt méditerranéenne. On a des tâches qui divergent un peu, mais c'est très, très vaste, quoi, oui.
Travaillez-vous plus en extérieur ou en intérieur?
Alors toujours plus à l'extérieur, mais on a de plus en plus de temps aussi à consacrer aux tâches de bureau. Et l'informatique n'a pas non plus supprimé ces tâches. Au contraire, même, on a de plus en plus de travail de bureau. Oui, oui, oui. Oui.
Comment faites-vous pour surveiller la forêt? Elle est si grande.
Oui, alors les forêts, on se les partage. Hein. On n'est pas tout seul, heureusement. Donc on a une certaine superficie de forêt à gérer individuellement, mais on travaille aussi en équipe. Parfois, on peut avoir des missions de police et donc de surveillance combinées à plusieurs personnes, notamment les surveillances de chasse. Quand on va contrôler les chasseurs, là, on est à plusieurs. Par contre, pour la surveillance quotidienne, tous les jours, là, on est seul. Mais bon, on ne fait plus cette tâche unique, enfin, toute seule. On a d'autres tâches en même temps. Hein. Par exemple, on va aller marquer les arbres. Et pendant cette opération-là, on regarde un peu ce qui se passe aussi autour. Quand on va contrôler une exploitation, c'est pareil. Donc, voilà.
Y a-t-il des choses particulières à faire pour s'occuper de la forêt de la réserve naturelle des Hauts-Plateaux?
Alors, au niveau de la réserve naturelle, il y a une réglementation particulière donc qu'il faut respecter. Donc, il y a des contraintes, oui. Au niveau des dates d'intervention quand on fait des travaux, au niveau de la pénétration par les véhicules, il y a tout un panel de mesures à prendre aussi. Il faut prévenir aussi la réserve quand on va faire telle et telle opération. Il faut respecter beaucoup plus strictement certaines mesures, oui. Et notamment le règlement de la réserve naturelle, oui, qui est propre à elle.
À qui appartient la forêt?
Alors, il y a différents propriétaires. Au niveau du parc du Vercors, 50% de la forêt appartient à des propriétaires privés et les 50% autres sont des forêts de l'État ou des communes. Il y a à peu près 33% de forêts communales et ce qui reste donc 27% de forêts de l'État, donc forêts domaniales.
Protégez-vous des espèces et si oui, protégez-vous plus certaines espèces que d'autres ?
Alors, la protection des espèces, c'est la loi hein, qui le stipule. Donc, ces espèces-là qui sont sur des réglementations, elles sont listées. Et donc, il y a ces espèces-là, il faut absolument les protéger. Donc, on ne doit pas nuire à ces espèces. Après, sur le parc et notamment sur la réserve naturelle, oui, on a certaines espèces un peu phares, on va dire, dont on s'occupe un peu plus, notamment le tétralyre sur les hauts plateaux, pour lesquels on a fait quelques travaux là, pendant une dizaine d'années de réouverture de la forêt. La forêt prend le dessus, elle gagne sur les espaces ouverts, sur les pelouses. Les arbres s'installent petit à petit. Et le tétralyre, lui, a besoin de zones ouvertes, c'est-à-dire sans arbres, et puis un peu aussi de zones un petit peu boisées. Et donc, dans ces zones qui commencent à se refermer, on a fait un peu des petites coupes de façon à réouvrir ces zones qui se refermaient. Ça, c'est pour le tétra. Après, notamment, il y a deux petites chouettes là, qui sont présentes sur le Vercors, la chouette de Tengmalm et la chouette chevêchette. Donc là, on essaye aussi de conserver donc, l'habitat et notamment les sites de reproduction que sont les arbres à cavité, donc les arbres dans lesquels il y a des trous que les pics ont creusés. Donc ces arbres-là, on va les conserver le plus possible de façon à ce que ces deux espèces de chouettes puissent se reproduire, trouver un site pour nicher. Voilà, ça c'est deux, trois exemples, oui.
Protégez-vous plus la faune ou la flore?
Un peu les deux, on va dire, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'occuper un peu plus de la faune. Oui, c'est vrai. Mais on protège aussi des milieux qui englobent donc ces espèces, enfin la flore et la faune. Mais c'est vrai qu'on parle un peu plus d'espèces animales.
Comment reconnaissez-vous les arbres ?
Alors il y a différentes façons hein, de reconnaître un arbre. Il y a ses feuilles ou ses aiguilles. Il y a les bourgeons en hiver. Quand les feuilles sont tombées, il nous reste les bourgeons. Il y a l'écorce de l'arbre. Il y a la taille de l'arbre. La silhouette de l'arbre. Voilà, un peu, à peu près, oui. Et donc il faut essayer de prendre un peu dans ces différentes choses là que je viens de vous dire pour vraiment donner le nom et avoir plusieurs critères pour bien trouver le nom de l'espèce, enfin de l'essence, si c'est un arbre.
Est-ce que la forêt grandit, s'étend de plus en plus ?
Oui, la forêt s'agrandit, oui, elle prend de plus en plus de surface au niveau national, hein, au niveau de la France, oui. Et sur le Vercors aussi, oui. La tendance est à une avancée de la forêt, oui, sur les espaces ouverts. Notamment aussi, il y a eu des zones agricoles, oui, qui ont été délaissées et où on n'a plus pratiqué d'agriculture et où l'arbre s'installe et donc la forêt petit à petit, oui, prend le dessus, oui. Et notamment dans certaines vallées qui ont tendance à se refermer suite à la déprise agricole, oui.
Est-ce une bonne chose ?
Pas toujours, non. Non, trop de forêt, non, c'est pas toujours bon non plus. Et puis on a besoin aussi de zones agricoles, notamment en montagne, où c'est quand même des territoires assez limités. Donc, il faut qu'il y ait de la forêt, bien sûr, mais pas partout.
Quel arbre de la forêt vit le plus longtemps ?
Là, c'est difficile, hein, aussi. Si on laisse un arbre mourir de sa propre mort naturelle, il peut vivre très 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 vieux. Hein. On a des sapins, des épicéas qui peuvent vivre 300 ans sans problème, 350. On a des ifs qui sont plus petits, hein, qui deviennent moins gros, mais qui peuvent être aussi âgés si ce n'est pas plus. On a du pin accroché aussi plus haut, hein, tout en haut dans la montagne, pareil, qui peuvent atteindre plusieurs siècles. Et chez les feuillus, là on a du hêtre, 200, 250 ans, voire peut-être un peu plus aussi. On a un tilleul là sur Saint-Martin, il n'est pas en forêt, il est dans le village, mais il est très vieux, il a 500 ans.
Que faites-vous des arbres morts et pourquoi les arbres meurent-ils ?
Ah ben, comme tout être vivant, ce sont des êtres vivants les arbres, hein. Ben, il y a une naissance et puis une mort. Donc ça, c'est la logique de tout être vivant. Par contre, les arbres morts, ben, on les laisse. Pas tous, mais on en laisse. Bon, il y a le côté sécurité, hein, qu'il faut faire attention, notamment en bordure de route, près des bâtiments ou près d'un sentier qui est fréquenté. Donc là, on va éviter de laisser des arbres morts qui risqueraient de tomber sur les personnes qui passeraient. Par contre, dans le peuplement, dans la forêt, au cœur de la forêt, on laisse des arbres morts, oui, parce que l'arbre mort, c'est aussi c'est un arbre de vie, parce qu'il y a tout un écosystème qui va vivre sur cet arbre mort. Tout un grand nombre d'espèces animales, végétales, qui vont s'installer. Il y a des insectes xylophages, c'est-à-dire les insectes qui mangent le bois mort, qui vont d'abord commencer à s'attaquer à lui, à s'en nourrir. Ensuite, on va avoir aussi d'autres animaux, tels que le pic, qui va venir manger ces insectes qui mangent le bois. Le pic peut se faire croquer aussi par un autre animal, un rapace par exemple, une chouette, une grosse chouette, ou un épervier. Et chez les chauves-souris, c'est pareil. Les chauves-souris vont avoir besoin de l'arbre mort, d'une cavité dans l'arbre mort pour aller trouver refuge ou pour se reproduire. Et puis, il y a tout un cortège comme ça d'autres animaux. Il y a des champignons, donc ils vont s'installer aussi sur cet arbre mort. Des lichens. Et voilà.
Comment mesure-t-on un arbre ?
Alors, il y a différents moyens. Et on a des outils qui permettent de mesurer la hauteur de l'arbre, les dendromètres. On a également une technique que les bûcherons utilisent, c'est la croix du bûcheron. Donc, c'est le théorème de Pythagore. Donc c'est c'est un peu compliqué là peut-être pour vous expliquer, mais c'est en prenant deux morceaux de bois de même longueur que l'on dispose perpendiculairement et on s'éloigne, on s'avance de l'arbre jusqu'à trouver l'équilibre entre le haut de du bâton et le bas qui doit correspondre au haut de l'arbre, à la cime de l'arbre et au pied de l'arbre. Et la distance qui nous sépare de l'arbre, une fois qu'on a bien calé ça, nous donne... la hauteur de l'arbre, approximativement.
Combien il y a-t-il d'espèces animales dans vos forêts ?
Tout, tout, tout. Compliqué, là. De nombreuses espèces, je vais dire, parce qu'au niveau des insectes, il y en a énormément. Après, plus on va aller dans les animaux qui sont un peu plus gros, moins il y en aura. C'est les mammifères où il y en a le moins. Plusieurs milliers, moi je dirais. Oui. Alors, comptant tous les animaux. Hein. Oui. Et puis après, ça va dépendre aussi de la taille de la forêt. Et puis de l'échelle altitudinale. Voilà.
Et d'espèces d'arbres ?
D'espèces d'arbres ici sur le Vercors, une vingtaine à peu près d'arbres. Hein. Après, il y a les arbrisseaux, les arbustes, un peu plus petits. En tout, peut-être une cinquantaine total, mais je parle de à l'échelle de tout le parc. Hein. Parce que si on reste sur les hauts plateaux, c'est plus limité. Quoi.
Combien il y a-t-il d'arbres dans votre forêt et comment faites-vous pour les compter ?
Alors là, je ne peux pas répondre à ta question. C'est dans les forêts que je gère, oui, non, c'est trop vaste, quoi. Une multitude.
Et comment faites-vous pour compter les animaux ?
Alors, on compte les arbres, c'est vrai. On les compte lorsqu'on gère des forêts, notamment là, les forêts communales et domaniales que l'on gère. On va compter certaines parcelles. Parcelle, c'est une division de la forêt, de façon à pouvoir gérer le mieux possible, et notamment de façon à pouvoir exploiter et avoir une idée du volume, donc du nombre d'arbres et du volume que l'on va pouvoir extraire de la forêt, sans que ça nuise à cette forêt. Donc là, on fait des comptages, donc on les compte pied à pied, hein, donc on se met en équipe, en virée, un côté de l'autre, et on coche tous les arbres que l'on compte et on les pointe sur une fiche ou sur un appareil et avec l'essence, avec le diamètre notamment. Pour les animaux, alors il y a des comptages surtout pour les... Enfin non, pas pour les espèces chassables. Non, on le fait pour le cerf, notamment là ça se pratique actuellement. Par les fédérations de chasse, mais aussi par l'ONC, l'Office national de la chasse, et nous, on y participe aussi, l'ONF. Donc, on fait des comptages au phare, des cervidés, hein, donc le cerf. Et donc, ça se fait, il y a trois passages, et donc, on compte tous les animaux. Il y a des circuits qui sont définis sur le plateau, et donc, c'est la nuit au phare pour le cerf. Après, il y a des comptages aussi pour le chamois. Ça se fait sur des circuits, par des circuits avec des points d'observation sur les zones rocheuses notamment où se tiennent les chamois. Il y a des comptages pour les chevreuils aussi. Il y a des comptages donc pour le tétralyre, pour le lagopède alpin. Le lagopède alpin, c'est une perdrix, c'est la perdrix des neiges, c'est la perdrix qui blanche, qui devient toute blanche l'hiver, qui vit vraiment en crête sur les hauts plateaux et sur la chaîne. Et donc là, ce sont des comptages donc à la vue. Donc c'est le matin tôt. Ça va se faire là, fin mai, début juin. Et au lever du jour, donc c'est au moment où il y a les parades nuptiales chez cet oiseau. Et donc il est assez facile à voir. Et donc, il faut être là au lever du jour. Et puis, il y a des points, pareil, des points d'observation. Tout comme pour les tétras. Donc là, c'est au niveau des places de champ. On compte le nombre d'individus qui viennent sur les places de champ. Ça, c'est sur les hauts plateaux et notamment sur la réserve naturelle.
Et combien y a-t-il d'oiseaux dans la forêt ?
C'est pareil, une multitude d'oiseaux. Beaucoup, beaucoup, oui.
Y a-t-il parfois des déséquilibres dans la chaîne alimentaire ? Si oui, comment agissez-vous ?
Alors, ça peut arriver, c'est vrai. Ça peut arriver, alors en forêt, pas trop. Enfin, dans les forêts que l'on gère, très peu, parce qu'on essaye d'avoir une forêt continue dans le temps et sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de coupe à blanc, par exemple, où là, on arrive à avoir un milieu qui est nu. Donc, il y a éventuellement quelques petits arbres, mais c'est tout. Donc on a ce traitement de la futaie irrégulière qui permet d'avoir des arbres pendant toute la vie de la forêt et elle se renouvelle sans qu'il y ait d'interruption au niveau du couvert boisé. Donc à ce niveau-là, on a très peu de risques de rupture au niveau de la chaîne alimentaire. Par contre, c'est plus dans certains milieux agricoles, oui, où là, il y a des gros problèmes. Oui.
Merci.
Il n'y a pas de quoi. Merci de vos questions, de toutes vos questions là, qui sont très très variées. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Bon, il y aurait un tas d'autres choses à raconter.
Cap 2038.
Qu'est-ce que
le port du Vercors par l'école de Sainte-Croix
pour Ardivois, pour la radio du Doigt.
C'était dans le parc régional du Vercors.
Qu'est-ce
que ça
Merci à Jacques.
On est bien sous Ediwa à dit la radio du Diwa.
La musique est de Alireza Gorboni, Mona Jacques éperdument.
Allô, tu l'entends ? Nolan, tu entends ? Nolan ? Voilà, tu entends du coup.